Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du 12 mars 2024. Je vous donne les titres d'actualité. Alors nous allons commencer avec la question du handicap. Parce que je suis handicapée, je ne peux pas faire de sport. Eh bien, c'est faux. Et nous allons voir comment le handicap peut rencontrer la performance avec la réflexion de Thierry Legoasiou, directeur général de l'ADAPEI de la Nièvre. Pour illustrer cette réflexion, je vous lirai également une interview de Emmanuel Brochier intitulée « Quand l'homme est touché par la faiblesse, il démontre une force plus grande et insoupçonnée ». Tout cela est dans « Ombre et lumière » numéro 258. Je vous lirai ensuite trois fioretti de personnes qui ont vécu les pires situations de l'existence et comment Dieu est intervenu. Ces fioretti figurent dans le magazine Mission numéro 9. En portrait aujourd'hui, comment peut-on être dans l'espérance quand on a 29 ans et que l'on est déjà en soins palliatifs pour un cancer généralisé? Je vous lirai le témoignage de Clémence Pasquier en ligne sur Aletheia. Et en culture chrétienne, un livre paru aux éditions Salvator de Marie-Noël Nachard, intitulé « Prière écrit d'en bas ». Nous commençons cette revue de presse avec les personnes handicapées et qui veulent pourtant faire du sport. Je vais vous lire la réflexion de Thierry Legoasiou, directeur général de l'ADAPEI de la Nièvre, donc réflexion qu'il a partagée au magazine Ombre et Lumière numéro 258. La personne handicapée est porteuse d'un charisme particulier, qui possède la force d'un modèle à imiter. Cela signifie concrètement que le regard sur la personne vulnérable doit se modifier. Une intelligence de la foi ne doit pas hésiter, en ce sens, à interroger d'une façon critique la technostructure de l'organisation du sport pour les personnes en situation de handicap. Il existe deux fédérations sportives qui régissent par délégation de l'État français le monde du handicap. La Fédération française Handisport fédère les handicaps sensoriels et moteurs et la Fédération française de sport adapté, qui s'adresse au monde de la déficience intellectuelle. L'histoire de leur création, leur tentative de rapprochement, leur combat pour la cause du handicap et leur conception différente de l'athlète en situation de handicap montrent qu'il existe au sein du monde sportif une divergence profonde. On ne peut que se réjouir de voir une structuration du sport adaptée au monde du handicap qui regroupe plus de 100 000 licenciés dans toutes les disciplines sportives. Celle-ci fait du sport un espace inclusif et solidaire qui permet à chacun, selon son niveau et ses capacités, de participer, de se dépasser, de perdre, de gagner, de souffrir, de pleurer, de crier de joie, d'abandonner, de franchir la ligne d'arrivée à l'instar de tous les sportifs de la planète. Cette reconnaissance fait consensus, mais il est intéressant de voir comment ces fédérations se positionnent l'une vis-à-vis de l'autre. Comment appréhendent-elles les notions de performance, de capacité, de réparation, d'augmentation de l'humain, mais aussi de plaisir, de participation et de citoyenneté? Les Jeux paralympiques, qui auront lieu en septembre prochain, en particulier mettent en démonstration l'athlète performant ou capable en dépit de son handicap sensoriel ou moteur. Cette mise en scène publique n'éclaire qu'un aspect du handicap, le plus surmontable et le moins incompréhensible. La limitation strictement mécanique ou l'absence de sensibilité organique peuvent être compensées ou atténuées, tandis que la déficience intellectuelle profonde reste une difficulté relativement incontournable. On constate une limite dans l'acceptation des représentations sociales du handicap. Lorsque les corps sont trop abîmés, lorsque les schémas corporels s'avèrent trop dégradés, lorsque la dépendance rejoint une forme de vulnérabilité extrême ou dérangeante qui pèse nécessairement sur la performance attendue. La personne dont le handicap est compensable peut s'apparenter à la figure du héros sportif, du combattant intrépide, adulé plus encore que le sportif valide puisque perçu comme plus courageux. La déficience intellectuelle semble ne jamais pouvoir être reconnue comme telle pour elle-même. « J'ai beaucoup travaillé sur la notion de trouble », nous dit Thierry Legoasiou. ce ressenti qui perturbe la rencontre entre une personne valide et une personne porteuse de handicap mental, polyhandicapée. Cette émotion qui conduit à repousser une inquiétante étrangeté se trouve transportée dans le monde du sport. Celui-ci pose sur la déficience intellectuelle comme un signe indélébile. Un processus d'exclusion frappe une catégorie particulière d'acteurs, car ils ne parviennent pas à faire accepter leur spécificité, tandis que les autres sont admis, voire admirés au sein de la communauté sportive. Ce clivage montre une faille dans ce qu'une société du spectacle sportif est prête à admettre. Le risque est de perpétuer une forme de narcissisme dans les tribunes des stades et des gymnases, voire d'élaborer une nouvelle forme d'élitisme. Au regard de l'anthropologie chrétienne, cette exclusion durable pose un problème éthique majeur. Lorsque l'Église rappelle les droits de la personne handicapée, nous sommes face à une exigence morale difficilement contestable. Jean-Paul II réaffirmait avec force la dignité indépassable et incontournable de la personne dépendante. Il disait « La personne handicapée, même lorsqu'elle apparaît blessée dans son esprit ou dans ses capacités sensorielles et intellectuelles, est un sujet pleinement humain, avec des droits sacrés et inaliénables, propres à toute créature humaine. L'acceptation doit constituer le moteur d'une rencontre, réconciliée entre personnes valides et invalides, entre sportifs et non sportifs. Elle rappelle à chaque être la part incompressible d'humanité qui l'habite et qui constitue son identité véritable. » C'était la réflexion de Thierry Le Goasiou, que vous pourrez retrouver intégralement dans le magazine Ombre et Lumière, numéro 258. Et nous restons toujours auprès des personnes handicapées, et en particulier des hommes, quand un homme est handicapé. Je vais vous lire l'interview d'Emmanuel Brochier, intitulée « Ces hommes nous montrent une force supérieure ». Que nous dit l'homme marqué par le handicap de la faiblesse et de la force? L'homme avec un handicap, qui a besoin qu'on l'habille par exemple, éprouve une plus grande faiblesse, mais l'être humain est un être faible tout au long de sa vie. S'il donne l'impression qu'il est fort, c'est par la technique et les artefacts. Prenons l'exemple des chaussures qui permettent de marcher sans se blesser. Elles compensent la faiblesse du pied. Tout homme est faible, et cette faiblesse est le signe que nous avons besoin d'ajouter quelque chose à notre corps, mais aussi à notre psychisme et à notre intelligence. L'homme touché par une plus grande faiblesse nous parle de cette force qui consiste non pas à dominer comme maître et possesseur, mais à surmonter nos faiblesses, nos insuffisances à poser un certain nombre d'actes. Les hommes, par rapport aux femmes, ont-ils un plus grand besoin d'éprouver leur force ? Emmanuel Brochier nous dit « La dimension de la force prend deux visages qui ne sont pas d'égale valeur. Il y a ce que l'on appelle en latin « sustinere » qui renvoie à la capacité de supporter, soutenir, préserver. Et puis il y a le terme « aggredire » qui exprime cette capacité d'aller de l'avant à l'attaque. On retrouve ces deux types de force autant chez l'homme que chez la femme. Certains vont être plus dans l'attaque, d'autres dans la défensive. Si on compare ces deux attitudes, notamment dans l'épreuve du handicap, soutenir est quelque chose de plus fort qu'attaquer. La capacité de soutenir se retrouve particulièrement dans le Christ. Sa passion est un exemple incroyable de force. Le Christ prend sur lui la haine des hommes. Il aurait pu renverser les puissants. Or, il montre sa force non en les attaquant d'une manière ou d'une autre, mais en supportant les affronts, les coups, les blessures. Là, il montre la force qui a le plus de valeur. La capacité à soutenir est quelque chose de plus grand que la capacité à être dans l'attaque. Les hommes avec un handicap nous montrent cette force qui est supérieure. Ils représentent souvent des modèles de courage, de ténacité et de force, même dans l'extrême faiblesse. Le manque d'autonomie est vécu comme dégradant pour beaucoup, alors comment y répondre ? Il me semble que le grand problème de la personne handicapée de l'homme en particulier, c'est qu'on voudrait qu'il soit autonome au maximum. C'est le mythe de l'autonomie. Cela part d'un bon sentiment, ne pas vouloir être assisté, mais c'est l'inverse qui convient à l'être humain. Bien des situations nous montrent que dans nos faiblesses, notre force vient des autres. J'aime cette distinction entre espoir et espérance. Dans l'espoir, j'espère m'en sortir tout seul. J'ai l'espoir d'acquérir les compétences qui vont me permettre de mieux m'en tirer, de m'appuyer sur les moyens que je manipule, qui sont à ma disposition et desquels je suis maître. Tandis que dans l'espérance, je mets ma confiance dans d'autres personnes qui doivent engager leur liberté. Celles-ci peuvent renoncer, refuser ou bien s'engager. On voudrait compenser nos faiblesses par des moyens uniquement techniques et acquérir des compétences avec notre seule force. Là, on se trompe. Alors, pouvoir se débrouiller seul, comme l'adolescent qui part à l'assaut du monde, c'est pourtant goûter une vraie liberté. L'autonomie est un mythe, je le redis. Elle nous fait oublier que le prix de notre vie réside dans ce que nous vivons en commun. Il n'est pas dans ce que nous réussissons tout seuls. Être autonome, c'est être comme un automate. Alors que l'idée de liberté est tout autre. La liberté, c'est de s'engager pour accomplir quelque chose de plus grand que nous. Tout homme handicapé ne le mesure pas forcément. Mais l'une des grandes choses qu'il fait, c'est qu'il donne l'occasion à d'autres de poser des actes d'une qualité humaine incroyable. Accepter cela, c'est un signe de grandeur. Un homme que l'on doit nourrir, parce qu'il ne peut le faire seul, donne à d'autres l'occasion d'une extrême humanité. Si prisonniers de notre individualisme, nous nous disons qu'il vaut mieux faire notre toilette de manière autonome, cela s'entend, mais c'est moins grand. Je dis cela, mais c'est très difficile. Quand l'homme accepte cela, quand il comprend qu'il n'est pas diminué par cette aide, au contraire, il fait de cette faiblesse une force. Les personnes handicapées, les hommes handicapés, nous révèlent que nous sommes souvent prisonniers de ce mythe. Se réjouir de ce qui est accompli ensemble, avoir besoin des autres et réussir cette alliance, c'est là un message fort pour notre société. Et pour terminer, l'idéal de performance n'est-il pas un moteur puissant chez l'homme en particulier ? Ce sont les machines qui sont performantes. On peut chercher à les imiter. Le corps performant, ce n'est pas le corps vivant ou fécond. Un homme a une fécondité qui consiste à apporter quelque chose d'exemplaire pour les autres. Ce ne sera pas forcément de perpétuer la vie. Faire exister chez l'autre quelque chose de précieux, le meilleur de l'humanité qu'on porte en soi, c'est la fécondité la plus profonde. Bien plus profonde en un sens que la fécondité biologique. Transmettre ce que l'on a de meilleur en soi, ça n'a strictement rien à voir avec la performance. Dans l'idée de performance, il y a une obligation de résultat. Dans l'idée de fécondité, l'enjeu est de faire tout son possible, et c'est déjà méritant. Les hommes qui aimeraient donner la vie, qui vivent cette souffrance en raison de leur handicap, peuvent vivre quelque chose de plus grand, qui rend heureux. Bien sûr, ça n'enlève pas la blessure. Ce serait totalement idéalisé de penser ça. Ce qui fait la grandeur d'une vie, c'est ce qu'on donne aux autres de soi. Car tout le reste est vain. C'était l'interview de Emmanuel Brochier pour le magazine Ombre et Lumière, numéro 258, intitulé « Ces hommes handicapés nous montrent une force supérieure ». Nous continuons avec d'autres souffrances dans l'existence. Pour cela, je vais vous lire trois Fioretti de personnes qui ont connu, par exemple, le meurtre ou la séparation. Ces trois Fioretti sont dans le magazine Mission numéro 9. Nous commençons avec le témoignage de Joël, qu'elle a intitulé « Je n'ai pas de haine à l'égard du meurtrier de ma sœur. Il y a quelques mois, ma sœur Fabienne a été sauvagement assassinée à coups de couteau. Son meurtrier était clandestin, considéré comme dangereux avec des problèmes psychiatriques. Il avait 17 ans et s'était échappé de son foyer. La police l'a rapidement retrouvé et il s'est suicidé dans sa cellule. « Comment je réagis à ça ?» nous dit Joël. « J'ai été très choquée. Ma tristesse est infinie. J'ai pleuré 3 jours sans m'arrêter. Je suis en colère face à cette situation. Comment a-t-on pu en arriver là ? Pourquoi Dieu permet-il cela ? Pourquoi ma sœur Fabienne ? Quels seront les fruits ? Ma colère me paraît légitime, la révolte aussi, mais la haine ne l'est pas. Et je n'ai pas de haine à l'égard de cet homme. Dieu me fait la grâce de ressentir de la compassion. Dans une société qui a perdu le Dieu d'amour, où les gens ne cherchent pas à être unis au Christ, ce genre de fait risque de se multiplier. Le monde a un besoin criant de connaître Dieu. C'est de cela que je veux parler. Je veux que la vie de Fabienne reste féconde, comme elle l'était de son vivant. Elle a vécu un chemin de conversion éblouissant qui l'a aidée à se reconstruire après un divorce très douloureux. Les désirs de son cœur pour Dieu étaient immenses et le Seigneur l'a comblée de sa grâce. J'étais très proche d'elle. J'ai observé le travail de Dieu en elle. Mon souci aujourd'hui est d'en témoigner et de renforcer les liens avec ses enfants. J'éprouve aujourd'hui un grand besoin de solitude et de prière. Et elle me permet cela. Je ne veux pas me mêler au bruit du monde. Je veux être seule avec le Seigneur. L'espérance n'est pas un vain mot. Je m'efforce de croire que si le bon Dieu permet tant de souffrances, c'est qu'il va en faire quelque chose de beau, qu'il va faire jaillir du fruit. Je ne sais pas comment, je suis encore dans le brouillard, mais j'y crois et j'en témoigne. Ma vie intérieure est différente. Une prière reste sans cesse dans mon cœur. Nous la récitons chaque matin avec mon mari et je la répète en pensée régulièrement. C'est une supplication pour tous ceux qui souffrent de violence et de persécution, mais aussi pour ceux qui commettent de tels actes. Je dépose ma tristesse et ma révolte au pied de l'autel. Prends ce fardeau, Seigneur, il est trop lourd, viens nous aider à le porter. Devant la croix, je comprends mieux la souffrance de notre Jésus. Ces tortures qu'il a subies me font pleurer de compassion. Alors je me confie à la Sainte Famille, dans l'espérance de la vie bienheureuse promise au bon. Dieu rendra sa justice. C'était le premier Fioretti, donc celui de Joël, qui n'a pas de haine à l'égard du meurtrier de sa sœur Fabienne. Nous passons au deuxième Fioretti, à savoir celui de Camille, intitulé « C'est par la croix que j'ai trouvé la paix ». Je suis née dans une famille musulmane. Mon père m'interdisait d'entrer dans une église. À 8 ans, je me suis rendue dans un cimetière, par curiosité. Sur une tombe, j'ai vu une grande croix blanche. Je pensais que l'homme sur la croix figurait le monsieur enterré sous mes pieds. J'ai eu de la peine pour lui et j'ai commencé à lui parler longuement, à me confier à cet homme crucifié, sans avoir la moindre idée de qui il était. Mais il m'apaisait. J'étais une enfant très seule, différente des autres. Ma mère n'a jamais voulu de moi. J'ai toujours été insultée, battue, humiliée, rejetée. J'avais en moi une souffrance qui me brûlait de l'intérieur. Un jour, je suis tombée à genoux. Dieu, tu m'as donné la vie, mais je n'en veux plus. J'ai alors vu un homme debout en face de moi. Il était lumineux, je n'avais pas peur. Je l'ai supplié de m'emmener avec lui. Il m'a montré ses mains. De la lumière sortait de trous sur ses paumes. Il m'a dit « Sois patiente, je serai toujours avec toi. » À partir de ce moment, je me sens renaître. Je brûle de me faire baptiser, de mieux connaître ce Dieu qui m'a tant manqué. Je pardonne à mon frère. Le jour de sa mort, nous avons prié ensemble et il est mort un vendredi à 15h. Aujourd'hui, je suis apaisée. Je l'ai porté, ma croix, et à présent j'aime davantage. Je témoigne de l'amour de Dieu. Si j'ai réussi à sortir des ténèbres, d'autres le peuvent aussi. J'ai une grande soif de venir au secours de ceux qui en ont besoin. Je leur dis que pour guérir, on doit s'accrocher à la croix, l'admirer, ne jamais la lâcher. C'est là que j'ai trouvé la paix, depuis toujours. » C'était le deuxième Fioretti, celui de Camille, intitulé « C'est par la croix que j'ai trouvé la paix ». Et le dernier, celui de Astrid, intitulé « Je n'en ai jamais voulu à mon ex-mari ». Peu de temps après mon mariage, je me suis rendu compte que mon mari n'était pas l'homme que je pensais avoir épousé. À la naissance de notre quatrième enfant, il est devenu violent, avec moi mais aussi avec les enfants. Je n'en parlais à personne et le divorce n'était pas envisageable. Mais un jour, un prêtre m'a confirmé que l'Église ne me demandait pas de m'auto-détruire. Ça m'a convaincue. J'ai pris les enfants et nous sommes partis. J'avais la foi chevillée au cœur, mais ma colère contre l'Église était grande. Je me sentais jugée par les gens de ma paroisse. En apparence, nous étions une famille modèle. Ils ne pouvaient pas comprendre. Alors j'offrais ma douleur au pied de la croix et j'ai reçu beaucoup de grâce. Comme un tapis de pétales de rose qui s'étendait au-devant de nous et qui ne s'est pas arrêté depuis. Mon mariage a fini par être invalidé par l'Église. J'ai pu rencontrer celui qui est aujourd'hui mon mari. Il a vécu les mêmes choses que moi. On a eu besoin de temps pour construire notre couple. Nous avons subi beaucoup d'attaques. Mais porter 400 kilos à deux est étrangement bien plus facile que d'en porter 200 seul. Lors d'une retraite agapée, Dieu est venu à moi. Il s'est manifesté. J'ai compris que son amour était parfait et que je n'avais pas besoin de le chercher ailleurs, pas même chez mon fiancé. Que tout est en lui. Il m'a consolée et m'a montré que son amour était encore plus grand que ma blessure. Cette consolation a dissipé ma colère. C'était la première étape vers la paix. Un jour, une femme est venue me voir pour me confier que son mari était très violent avec elle. On a réussi à l'aider et à la mettre à l'abri. J'ai senti que c'était mon devoir, mon rôle à présent. L'amour n'est refusé à personne. J'incarne le fait que la reconstruction est possible, que Dieu peut guérir les blessures béantes. Il s'est manifesté pour moi et il peut le faire pour les autres. C'était le troisième Fioretti, celui de Astrid, intitulé « Je n'en ai jamais voulu à mon ex-mari ». Vous pourrez les retrouver dans le magazine Mission numéro 9. Nous allons maintenant à la rencontre de Clémence Pasquier, véritable témoin et joyau d'espérance en dépit d'un cancer généralisé qui l'amène désormais en soins palliatifs. Cette Clémence a 29 ans. Le témoignage que je vais vous lire, non pas en intégralité, mais du moins les grandes lignes, est en ligne justement sur Aletheia. Depuis qu'elle a 22 ans, Clémence souffre d'un cancer, désormais généralisé et qui ne lui laisse que peu de répit. Elle est à présent en soins palliatifs et sait que les mois lui sont comptés. Pourtant, entre deux passages à l'hôpital, elle continue son travail auprès des jeunes. Doit publier un deuxième ouvrage sur les jeunes saints et n'hésite pas à témoigner de sa foi qui l'habite depuis son plus jeune âge. En participant à l'émission Les Lueurs, Clémence s'est confiée et elle a trouvé beaucoup d'écho. Elle nous dit « Je ne m'attendais pas à autant d'intensité dans les retours que j'ai eus, ni aussi rapidement. J'ai reçu énormément de messages, cela a provoqué de nombreuses discussions, notamment avec des proches, mais surtout des moins proches. Beaucoup de gens m'ont confié leurs propres épreuves. Après coup, je réalise qu'en réalité, nous tous, humains, possédons peu d'espace dans nos quotidiens pour dire ce qui nous rend fragiles. De plus, je comprends également que quand on ose se confier et montrer sa souffrance, cela autorise les gens à se confier à leur tour. Peu importe que leurs épreuves soient plus ou moins dures que les nôtres, l'essentiel est de pouvoir parler de ses douleurs comme de son espérance. Le bon Dieu a bien fait les choses car j'avais prévu une retraite à Lourdes puis à Boulogne et je suis contente de pouvoir souffler un peu physiquement car je suis assez fatiguée et moralement pour laisser retomber cette actualité et lire à tête reposée les beaux messages que j'ai reçus. Je suis issue d'une famille très pratiquante et nous avons toujours prié ensemble à la maison. Nous avons même monté un spectacle familial sur la vie de saint François d'Assise. Aussi, la foi, c'est vraiment mon quotidien. Quand je suis arrivée à Lyon pour démarrer ma vie professionnelle, j'ai eu la chance d'être embauchée au diocèse après plusieurs mois de bénévolat. Rapidement, j'ai dû annoncer ma maladie au travail car cela me demandait quelques aménagements avec mes rendez-vous médicaux. Malgré la douleur et la fatigue, je suis heureuse de pouvoir continuer à travailler car cela me permet de garder un rythme de vie, un équilibre, avec le devoir de me lever pour aller au boulot et garder un contact avec le monde. Quels sont les saints qui me touchent plus particulièrement depuis ma maladie? Il y a bien sûr saint François d'Assise, mais aussi sainte Claire, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Claire de Castelbajac. Son expérience de la vie, de la joie, de ses doutes me parle énormément et nous avons à présent une véritable proximité. La prière fait vraiment partie de mon quotidien et elle s'y insère à chaque instant. Il faut dire que j'ai de très nombreuses heures d'attente dans ma vie. Lors des rendez-vous à l'hôpital, pendant des nuits difficiles sans sommeil, alors je trouve souvent le temps de prier. Par mes mains, ma tête ou mon cœur, j'ai trouvé des moyens de prier, constants et réguliers, et cela malgré la fatigue. Et pour terminer, quel est votre message, Clémence? Elle nous dit « J'accepte régulièrement de témoigner dans des forums de jeunes. » Mais c'est vrai que, jusqu'à cette émission « Les Lueurs », je n'avais encore jamais parlé des soins palliatifs et de mon rapport à la mort. J'étais en confiance pendant le tournage, et pour être honnête, je ne pensais pas que je me confierais autant, ni qu'il y aurait une telle audience à laquelle je ne pensais pas du tout. Ce que je comprends à présent, avec le recul, si tant est que j'ai un message, c'est que la souffrance est universelle, qu'elle touche tout être humain et qu'il faut des lieux pour en parler et se confier. Je ne sais pas quelle sera la suite de ma vie, même si les médecins ne me laissent guère de visibilité. Je sais que l'amour est ce qui reste et ce qui restera. » C'était les grandes lignes du témoignage de Clémence Pasquier, atteinte d'un cancer généralisé et en soins palliatifs du haut de ses 29 ans. Le témoignage est en ligne sur Aletheia. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous présenter très rapidement le livre de Marie-Noëlle Nachard intitulé « Prières et cris d'en bas » paru aux éditions Salvator. Comme celle de nombreuses personnes marquées par la pauvreté, la vie de Marie-Noëlle Nachard a été tissée d'injustice et de souffrance, d'abandon et de trahison. Mort tragique de ses parents, orphelinat, maladie, usure physique. Pourtant, grâce à l'attention et à la qualité d'écoute d'une amie, elle a pu faire jaillir ses prières, recueillies comme des psaumes, qui sont des cris jetés vers le ciel. Où est-il ton Dieu? Il est là présent, caché, fidèle, petit, si petit mais tellement vivant et vrai. Ces textes simples, bibliques et foudroyants de vérité rejoindront tous les blessés de la vie et ceux qui les accompagnent. Prière et cri d'en bas de Marie-Noëlle Nachard, paru aux éditions Salvator. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Je vous redonne très rapidement les titres dont il a été question dans cette revue de presse du 12 mars 2024. Nous avons commencé par les personnes handicapées et le sport. J'ai lu la réflexion de Thierry Legoasiou, directeur général de l'ADAPEI de la Nièvre, « Comment le handicap peut-il s'allier à la performance ?» suivi d'une interview d'Emmanuel Brochier, « Quand l'homme est touché par la faiblesse ». Ces deux articles sont dans « Ombre et lumière » numéro 258. Je vous ai lu ensuite trois Fioretti publiés dans le magazine Mission numéro 9, trois personnes qui ont connu le meurtre et la séparation et comment Dieu est intervenu dans leur vie. En portrait aujourd'hui, je vous ai lu les grandes lignes de Clémence Pasquier, qui est dans l'espérance du haut de ses 29 ans dans un cancer généralisé et en soins palliatifs. Le témoignage est en ligne sur Aletheia. Et en culture chrétienne, le livre de Marie-Noëlle Nachard, paru aux éditions Salvator, intitulé « Prières et cris d'en bas ». Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve mardi prochain.
Chers auditeurs, c'était la revue de presse avec Claire. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.